Chapitre 29e. Monsieur de Maillefort, entendant l'appel d'Herminie, qui le suppliait de rester, se retourna vers elle, et le visage triste, sévère, lui dit « Que voulez-vous, mademoiselle ?»«
Ce que je veux, monsieur, » s'écria-t-elle, la joue en feu,
les yeux brillants de larmes d'indignation et d'orgueil. « Ce que je veux, c'est dire, devant vous, à cet homme, qu'il a menti.
« Moi ?»
dit M. Bouffard, « c'est un peu fort. Quand j'ai les genêts en poche,
« je vous dis que vous mentez !»
s'écria la jeune fille en faisant un pas vers lui avec un geste d'une admirable autorité.
« Je n'ai donné à personne le droit de vous payer, de me faire ce sanglant outrage !»
Malgré la grossièreté de sa nature et de son intelligence, M. Bouffard se sentit ému, tant la fière indignation d'Herminie était irrésistible et sincère. Aussi, reculant de deux pas, le propriétaire balbutia-t-il en manière d'excuse.
Je vous jure, ma parole la plus sacrée, mademoiselle, que tout à l'heure, en montant, j'ai été arrêté sur le palier du premier étage par un beau jeune homme brun qui m'a donné cet or pour payer votre terme. Je vous dis la vérité, foi de Bouffard.
Oh mon Dieu, humilié, outragé à ce point, s'écria la jeune fille, dont les larmes, longtemps contenues, coulèrent enfin. Tournant alors vers le bossu, muet témoin de cette scène, son beau visage baigné de pleurs, Herminie lui dit d'une voix suppliante.
« De grâce, monsieur le marquis, ne croyez pas que j'ai mérité cette insulte. »«
Un marquis, » dit M. Bouffard en ôtant son chapeau qu'il avait jusque-là gardé sur sa tête. M. de Maillefort, s'approchant d'Herminie, le cœur épanoui, dégagé d'un poids cruel, lui prit paternellement la main et dit
« je vous crois, ma chère et noble enfant, ne descendez pas à vous justifier. Vos larmes, la sincérité de votre accent, votre généreuse indignation, tout me prouve. » que vous dites vrai, que c'est à votre insu que cet outrage en service vous a été rendu.
Ce qu'il y a de sûr, c'est que moi qui viens quasi tous les jours dans ma maison, dit M. Bouffard presque attendri, je n'ai jamais rencontré ce beau jeune homme. Enfin, que voulez-vous, ma chère demoiselle? Votre terme est payé, c'est toujours ça, il faut vous consoler. Il y en a tant d'autres qui voudraient être humiliés de cette manière-là. Hé hé, ajouta M. Bouffard en riant de son gros rire.
« Cet argent, vous ne le garderez pas, monsieur !» s'écria Herminie. « Je vous en supplie. Vendez mon piano, mon lit, tout ce que je possède, mais par pitié, rendez cet argent à celui qui vous l'a donné. Si vous le gardez, la honte est pour moi, monsieur. »«
Ah ça, mais un instant, diable, comme vous y allez !» dit M. Bouffard. « Je ne me trouve pas insulté du tout pour empocher mon terme, moi. Un bon tien vaut mieux que deux tu l'auras. Et d'ailleurs, où voulez-vous que je le repêche, ce beau jeune homme ?» pour lui rendre son argent. Mais il y a moyen de tout arranger. Quand vous le verrez, ce Godelureau. Vous lui direz que c'est malgré vous que j'ai gardé son argent, que je suis un vrai bédouin, un gredin de propriétaire. Allez, allez, tapez sur moi, j'ai la peau dure. Et comme ça, il verra bien, ce joli garçon, que vous n'êtes pour rien dans la chose. Et M. Bouffard, enchanté de son idée, dit tout bas au bossu, « Je suis content de lui avoir rendu service. » Je ne pouvais pas la laisser dans cet embarras, cette pauvre fille. Car je ne sais comment cela se fait, mais enfin, quoiqu'elle m'ait dû un terme, je me sens tout drôle. Pour sûr, voyez-vous, monsieur le marquis, c'est dans la débine, mais c'est honnête.
Mademoiselle, dit monsieur de Maillefort à Herminie, qui, son visage caché dans ses deux mains, pleurait silencieusement, voulez-vous suivre mon conseil?
Hélas, monsieur, que faire? Dit Herminie en essuyant ses larmes.
« Acceptez de moi, qui suis d'âge à être votre père, de moi, qui étais l'ami d'une personne pour qui vous aviez autant de respect que d'affection. Acceptez, dis-je, un prêt est suffisant pour payer monsieur. Chaque mois, vous me rembourserez par petites sommes. Quant à l'argent que monsieur a reçu, il fera son possible pour retrouver l'inconnu qui le lui a remis. Sinon, il déposera cette somme au bureau de bienfaisance de son quartier. »
Herminie avait écouté et regardé le marquis avec une vive reconnaissance.
« Oh, merci, merci, monsieur le marquis. J'accepte ce service, et je suis fier d'être votre obligé. »«
Et moi ?» s'écria l'impitoyable monsieur Bouffard, enfin apitoyé.
« Je n'accepte pas, nom d'un petit bonhomme. »«
Comment cela, monsieur ?» lui dit le marquis.
« Non, sac à papier, je n'accepte pas.
Il ne sera pas dit que, enfin, je ne suis pas assez... » Je ne suis pas assez rien du tout pour... Enfin, n'importe, je m'entends. Monsieur le marquis gardera son argent. Je tâcherai de repêcher le Godelureau.
sinon je mettrai ces louis au tronc des pauvres. Je ne vendrai pas votre piano, mademoiselle, et je serai payé tout de même. Ah, qu'est-ce que vous dites de ça ?
À la bonne heure. Mais expliquez-vous, mon brave monsieur, répondit le marquis.
Voilà la chose, reprit M. Bouffard. Ma fille Cornelia a un maître de piano d'une grande réputation, M. Tonrilyuskov.
Avec un nom pareil, dit le bossu, on fait nécessairement du bruit dans le monde.
Et sur le piano, donc, monsieur le marquis, un homme de 6 pieds, une barbe noire comme un sapeur, et des mains larges comme des épaules de mouton. Mais ce fameux maître me coûte les yeux de la tête. 15 francs par leçon, sans compter les réparations du piano, car il tape comme un sourd, il est si fort. Maintenant, si mademoiselle voulait donner des leçons à Cornelia, à 5 francs le cachet,
non, non,
à 4 francs, compterons. 3 leçons par semaine, ça fait 12 francs. Et elle s'acquittera ainsi petit à petit de ce qu'elle me doit, et une fois quitte, elle pourra désormais me payer son loyer en leçons.
Bravo, monsieur Bouffard, dit le marquis.
Eh bien, mademoiselle, reprit le propriétaire, que pensez-vous de cela ?
J'accepte, monsieur. J'accepte avec reconnaissance, et je vous remercie de me mettre à même de m'acquitter envers vous par mon travail. Je vous assure que je ferai tout au monde pour que mademoiselle votre fille soit satisfaite de mes leçons.
Eh bien, ça va, dit M. Bouffard, c'est convenu. 3 leçons par semaine, à commencer d'après-demain, ça fera 12 francs. La huitaine, bon, mettons 10 francs. 40 francs par mois, 8 pièces 100 sous, en compterons.
Vos conditions seront les miennes, monsieur, je vous le répète, et je les accepte avec reconnaissance.
Eh bien, mon cher monsieur, dit le marquis à M. Bouffard, est-ce que vous n'êtes pas plus satisfait de vous maintenant que tout à l'heure, lorsque vous effarouchiez cette chère et digne enfant par vos menaces ?
Si fait, monsieur le marquis, si fait. Car enfin, cette chère demoiselle, certainement, a été bien, méritait bien. Et puis, voyez-vous, je serai débarrassé de ce grand colosse de maître de piano avec sa barbe noire et ses 15 francs par cachet, sans compter qu'il avait toujours ses grandes mains sur les mains de Cornelia, sous prétexte de lui donner du doigté.
Mon cher monsieur Bouffard, dit tout bas le marquis au propriétaire en l'emmenant dans un coin de la chambre, permettez-moi un conseil.
Certainement, monsieur le marquis. En fait d'art d'agrément, ne donnez jamais de maître à une jeune fille ou à une jeune femme, parce que voyez-vous, souvent les rôles changent.
Les rôles changent, monsieur le marquis, comment cela ?
Oui, quelquefois, l'écolière devient la maîtresse, comprenez-vous ?
La maîtresse du maître.
La maîtresse du maître ! Ah, ah, très bien ! Ah oui, j'y suis parfaitement, c'est très drôle.
Mais redevenant tout à coup sérieux, M. Bouffard reprit.
Mais j'y pense, à Saperlotte, si cet Hercule de Tonnerre-Yuliskov, si Cornelia...
La vertu de Mademoiselle Bouffard doit être au-dessus de pareille crainte, mon cher monsieur, mais pour plus de sûreté...
Ce brigand-là ne remettra jamais les pieds chez moi, avec sa barbe de sapeur et ses 15 francs par cachet, s'écria M. Bouffard.
Merci du conseil, monsieur le marquis. Puis, revenant auprès d'Herminie, M. Bouffard ajouta.
Ainsi, ma chère demoiselle, après-demain, nous commencerons à 2 heures, c'est l'heure de Cornelia.
À 2 heures, monsieur, je serai exact, je vous le promets.
Et 10 francs par semaine.
Oui, monsieur.
Moins encore, si vous le désirez.
Vous viendriez pour 8 francs ?
Oui, monsieur, répondit Herminie en souriant malgré elle.
Eh bien, ça va, 8 francs, un compteron, dit l'ex-épicier.
Allons donc, monsieur Bouffard, un riche propriétaire comme vous, et plus grand seigneur que cela, reprit le marquis.
Comment ? Un électeur éligible ? Peut-être même un officier de la garde nationale ?
Car vous me paraissez bien capable de cela.
Monsieur Bouffard releva fièrement la tête, poussa son gros ventre en avant et dit avec emphase, en faisant le salut militaire,
« Sous-lieutenant de la 3e, du 2e, de la 1ʳᵉ. »«
Raison de plus, cher monsieur Bouffard, » reprit le bossu, « il y va de la dignité du grade. »«
C'est juste, monsieur le marquis, j'ai dit 10 francs, c'est 10 francs. J'ai toujours fait honneur à ma signature. Je vais tâcher de retrouver le Godelureau. Il flâne peut-être dans les alentours de ma maison pour y revenir tout à l'heure. » Mais je vais le signaler à la mère Mouflon, ma portière. Et soyez tranquille, elle a l'œil bon et la dent idem.
Votre serviteur, monsieur le marquis. Après-demain, ma chère demoiselle.
Mais, revenant sur ses pas, monsieur Bouffard dit à Herminie,
mademoiselle, une idée. pour prouver à monsieur le marquis que les bouffards sont de bons enfants quand ils s'y mettent.
Voyons l'idée, monsieur Bouffard, reprit le bossu. Vous voyez bien ce joli jardin, monsieur le marquis.
Oui.
Il dépend de l'appartement du rez-de-chaussée.
Eh bien, je donne à mademoiselle la jouissance de ce jardin, jusqu'à ce que l'appartement soit loué.
Vraiment, monsieur, dit Herminie toute joyeuse. Oh, je vous remercie. Quel bonheur de pouvoir me promener dans ce jardin.
À la charge pour vous de l'entretenir, bien entendu, ajouta monsieur Bouffard, qui s'encourut d'un air guilleret, comme pour se soustraire modestement à la reconnaissance que devait inspirer sa proposition.
On n'a pas idée de ce que gagnent ces gaillards-là à être obligeants et généreux, dit le bossu en riant lorsque monsieur Bouffard fut sorti. Puis, redevenant sérieux et s'adressant à Herminie,
« Ma chère enfant, ce que je viens d'entendre me donne une telle idée de l'élévation de votre cœur et de la fermeté de votre caractère, que je comprends l'inutilité de nouvelles instances à propos du sujet qui m'a amené près de vous. Si je me suis trompé, si vous n'êtes pas la fille de madame de Beauménil, vous persisterez naturellement dans votre dénégation. Si au contraire j'ai deviné la vérité, vous persisterez à la nier. Et en cela vous obéissez, j'en suis certain, à une raison secrète mais honorable. Je n'insisterai donc pas. Un mot encore. J'ai été profondément touché du sentiment qui vous a fait défendre la mémoire de madame de Beauménil contre les soupçons qui peuvent m'avoir trompé. Si vous n'étiez une digne et fière créature, je vous dirais que votre désintéressement est d'autant plus beau que votre position est plus précaire, plus difficile. Et à ce propos, puisque M. Bouffard m'a prié du plaisir de pouvoir vous être utile cette fois, vous me promettez, n'est-ce pas, cher enfant, qu'à l'avenir vous ne vous adresserez qu'à moi.
Et à qui pourrais-je m'adresser sans humiliation, si ce n'est à vous, monsieur le marquis?
Merci, ma chère enfant, mais de grâce, plus de monsieur le marquis. Tout à l'heure, au milieu de notre grave entretien, je n'ai pas eu le loisir de me révolter contre cette cérémonieuse appellation, mais maintenant, que nous sommes devenus amis, plus de marquis, je vous en supplie.
Ce sera plus cordial. C'est convenu, n'est-ce pas?
Dit le bossu, en tendant sa main à la jeune fille, qui la lui serra affectueusement et répondit.
Ah, monsieur, tant de bonté, tant de généreuse confiance, cela console de l'humiliation dont j'ai tant souffert devant vous.
Ne pensez plus à cela, ma chère enfant. Cette injure prouve seulement que cet insolent inconnu est aussi niais que grossier. C'est d'ailleurs trop lui accorder que de garder le souvenir de son offense.
Vous avez raison, monsieur, répondit Herminie, quoiqu'à ce souvenir elle rougit d'indignation et d'orgueil.
Le mépris le plus profond, voilà ce que mérite une pareille insulte.
Sans doute, mais malheureusement à cet outrage, votre isolement a peut-être contribué à vous l'attirer, ma pauvre enfant. Et puisque vous me permettez de vous parler sincèrement, comment, au lieu de vivre ainsi seul, n'avez-vous pas songé à vous mettre en pension auprès de quelques femmes âgées et respectables?
Plus d'une fois j'y ai pensé, monsieur. Mais cela est si difficile à rencontrer, surtout, ajouta la jeune fille en souriant à demi,
surtout lorsqu'on est aussi exigeante que moi.
Vraiment, reprit le bossu en souriant aussi, vous êtes bien exigeante.
Que voulez-vous, monsieur? Je ne trouverais à me placer ainsi que chez une personne d'une condition aussi modeste que la mienne. Et malgré moi, je suis tellement sensible à certains défauts d'éducation et de manière que j'aurais trop à souffrir en maintes occasions. Cela est puéril, ridicule, je le sais, car le manque d'usage n'ôte rien à la droiture, à la bonté de la plupart des personnes de la classe à laquelle j'appartiens, et je préfère vivre seul, malgré les inconvénients de cet isolement. Et puis enfin, je contracterai presque une obligation envers la personne qui me recevrait chez elle, et je craindrais que l'on ne me le fît trop sentir.
Au fait, ma chère enfant, tout ceci est très conséquent, dit le bossu après un moment de réflexion. Vous ne pouvez penser ou agir autrement, avec votre fierté naturelle, et cet orgueil qu'en vous j'aime avant toute chose a été, j'en suis sûr, et sera toujours votre meilleure sauvegarde. Ce qui ne m'empêchera pas, bien entendu, si vous le permettez, de venir de temps à autre, savoir si je peux aussi vous sauvegarder de quelque chose.
Pouvez-vous douter, monsieur, du plaisir que j'aurai à vous revoir?
Je vous ferai injure, si j'en doutais, ma chère enfant, j'en suis persuadée. »
Voyant M. de Maillefort se lever pour prendre congé d'elle, Herminie fut sur le point de demander au marquis des nouvelles d'Ernestine de Beauménil, qu'il devait sans doute avoir déjà vue. Mais la jeune fille craignit de se trahir en parlant de sa sœur et de réveiller les soupçons de M. de Maillefort.
« Allons, » dit celui-ci en se levant, « adieu, ma chère et noble enfant. J'étais venu ici dans l'espoir de rencontrer une jeune fille à aimer, à protéger paternellement. Je ne m'en retournerai pas du moins le cœur vide. Encore adieu et au revoir. À bientôt, je l'espère, monsieur le marquis, » répondit Herminie avec une respectueuse déférence.
Hein, mademoiselle, dit le bossu en souriant, il n'y a pas ici de marquis, mais un vieux bonhomme qui vous aime. Oh, qui vous aime de tout son cœur, n'oubliez pas cela.
Oh, jamais je ne l'oublierai, monsieur.
À la bonne heure, cette promesse vous absout. À bientôt donc, ma chère enfant.
Et monsieur de Maillefort sortit très indécis sur l'identité d'Herminie et non moins embarrassé sur la conduite à tenir au sujet de l'accomplissement des dernières volontés de madame de Beauménil. La jeune fille, restée seule et pensive, réfléchit longuement aux divers incidents de ce jour, après tout presque heureux pour elle, car en refusant un don qui montrait la tendre sollicitude de sa mère, mais qui pouvait compromettre sa mémoire, la jeune fille avait conquis l'amitié de M. de Maillefort. Mais une chose cruellement pénible pour l'orgueil d'Herminie avait été le paiement fait à M. Bouffard par un inconnu. Le caractère de la duchesse admis, l'on comprendra que, malgré ses résolutions de dédaigneux oubli, elle devait, plus que tout autre, ressentir longtemps une pareille injure, par cela même qu'elle était de tout point imméritée.
Je passais donc pour bien méprisable aux yeux de celui qui a osé m'offenser ainsi, se disait l'orgueilleuse fille, avec une hauteur amère, lorsqu'elle entendit sonner timidement à sa porte. Herminie alla ouvrir. Elle se trouva en présence de M. Bouffard et d'un inconnu qui l'accompagnait. Cet inconnu était Gérald de Senneterre.